Chapitre 5 Bienveillance de Philip Sheldon. Nancy avait peu perdu de son activité après les 10 années qui s'étaient écoulées depuis que Sheldon lui avait soldé ses gages à la sortie de sa maison. Son maître l'avait laissé libre de rester à son service si cela lui convenait. Mais Mrs. Woolper était d'une nature indépendante, et elle avait préféré joindre ses petites ressources à celles d'un neveu qui était sur le point de s'établir comme épicier, plutôt que de se mettre au service de la dame qu'elle persistait à appeler Miss Georgie. « Il y a si longtemps que j'ai perdu l'habitude d'avoir une maîtresse, » avait-elle dit à Sheldon, « que je ne pourrais pas supporter le caractère tatillon de Miss Georgie. Ce serait irritant pour moi si elle venait travailler et me faire des questions dans la cuisine. » J'aime à avoir mes coudées franches, et je ne crois pas que je pourrais m'entendre avec elle. » Nancy était donc partie pour entrer dans la maison de son parent et y perdre jusqu'à son dernier shilling de ses petites économies en efforts infructueux. La mort de celui-ci laissa la pauvre femme tout à fait dans la misère. La réponse de Sheldon lui arriva après plus d'une semaine d'attente. Le courage de Nancy était à bout, elle avait devant ses pauvres yeux vieillis la redoutable perspective de ce tombeau vivant qu'on appelle la maison de travail. Elle avait à peu près perdu tout espoir de secours de la part de son ancien maître. Elle se sentit pour lui une grande reconnaissance. Ce ne fut pas sans émotion que Mrs. Woolper obéit à son appel. Elle avait nourri de son lait le personnage sec et froid qu'elle allait revoir après 10 ans de séparation. Et bien qu'il lui eût été plus difficile de reconnaître dans l'agent de change le même homme qu'elle avait porté dans ses bras 40 années auparavant que de se représenter une personne morte depuis ce temps, elle ne pouvait cependant s'empêcher de conserver une certaine affection pour lui. Un étrange et sombre nuage s'était élevé entre elle et l'image de son maître dans les derniers temps de son service. Mais peu à peu ce nuage s'était dissipé, laissant l'image familière claire et nette comme par le passé. Elle avait laissé assaillir son esprit par un soupçon si monstrueux que, pendant un temps, ça avait été comme un cauchemar. Mais la réflexion lui avait bien montré qu'il était impossible que cela fût. Jour par jour, elle avait vu l'homme qu'elle soupçonnait s'occupant de ses affaires comme à l'ordinaire, ne modifiant en rien ses façons, luttant tête haute contre la mauvaise fortune, vivant tranquillement dans sa maison sans être troublé par de sinistres visions, par des accès de remords ou de sombres désespoirs, toujours égal, affairé et ferme, et elle s'était dit qu'un tel homme ne pouvait pas être coupable de l'inexprimable et horrible action qu'elle lui avait imaginée. Les choses avaient été ainsi pendant 1 année, puis était survenu le mariage avec Mrs. Halliday. Sheldon s'était rendu à Barlingford pour la célébration de cette intéressante cérémonie, et Nancy avait fait ses adieux à la maison après en avoir remis les clés à l'agent chargé de les remettre au successeur de Sheldon. Aujourd'hui, Mrs. Woolper était assise dans le cabinet de l'agent de change sous son regard scrutateur. « Ainsi, vous pensez que vous pourrez vous rendre utile dans la maison comme une sorte de femme de charge, hein, Nancy ?» Vous surveillerez les autres domestiques pour empêcher qu'ils me volent, courent les rues, etc., dit Sheldon d'un air interrogatif. Bien sûr que je le pourrai, Mr. Philip, s'empressa de répondre la vieille femme. Et si je ne vous épargne pas plus d'argent que je ne vous en coûterai, le plus tôt vous me mettrez à la porte sera le mieux. Je sais ce que c'est que les domestiques de Londres, je connais leur manière de faire. Et si Miss Georgie n'a pas le goût pour les soins du ménage, je sais, moi... Mrs. Sheldon s'entend au ménage à peu près autant qu'un enfant, interrompit Philippe avec un suprême mépris. Elle ne vous gênera en rien, et si vous me servez fidèlement, c'est ce que j'ai toujours fait, Mr. Philippe. Oui, oui, très certainement, mais j'ai besoin que vous me serviez fidèlement dans l'avenir comme vous l'avez fait par le passé. À propos, vous savez que j'ai une belle fille, la fille de Halliday, qui a été à l'école de Scarborough. Elle-même. Mais la petite fille de Tom est maintenant une belle jeune femme et une grande source d'anxiété pour moi. Je suis obligé de reconnaître que c'est une excellente fille, aimable, obéissante, et ne laissant rien à désirer sous ses rapports. Mais j'avoue franchement que je ne comprends rien aux jeunes filles. Je suis même très disposé à en avoir peur.
Pourquoi donc, monsieur ?
Parce que, voyez-vous, Nancy, elles reviennent à la maison en sortant de pension, avec leur folle tête pleine d'idées romanesques, ne sachant que lire des romans et taper sur un piano. Et avant que vous sachiez où vous en êtes avec elles, elles tombent amoureuses du premier venu qui leur fait un compliment. Tel est du moins ce que mon expérience m'a appris.
« À propos de Miss Halliday, monsieur, » demanda Nancy avec simplicité, « est-ce qu'elle est tombée amoureuse de quelque jeune garçon ?»«
Oui, et d'un gaillard qui n'est pas encore en situation de soutenir une femme. Si cette jeune fille était ma propre enfant, je m'opposerais très certainement à ce mariage, mais comme elle n'est que ma belle-fille, je m'en lave les mains.
« Épousez l'homme que vous avez choisi, ma chère, lui ai-je dit. » Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'épouser avant qu'il soit en état de vous assurer une existence convenable.
« Très bien, papa, » m'a-t-elle répondu de son ton le plus soumis, « et très bien, monsieur, » a dit le jeune gentleman. L'un et l'autre ont déclaré consentir à attendre tout le temps qu'il faudra, pourvu cependant que le mariage ait lieu à une époque quelconque à dater d'aujourd'hui, jusqu'au jour du jugement dernier.
« Eh bien, monsieur, » dit Nancy, ayant peine à comprendre pourquoi Philippe, le plus concentré et le plus réservé des hommes, était ce jour-là si communicatif.
« Eh bien, Nancy, ce que j'ai besoin d'empêcher, c'est que l'on ne me joue. Je sais combien sont limitées les notions d'honneur que les jeunes gens ont aujourd'hui, et à quel point une jeune écolière peut se laisser aller à commettre des folies. Je ne veux pas que ces jeunes gens s'en aillent un beau matin courir à Gretna Green. Pour m'expliquer plus clairement, je me défie de l'amoureux de Miss Halliday, je me défie du bon sens de Miss Halliday, et j'ai besoin d'avoir dans la maison une personne clairvoyante qui soit toujours sur le qui-vive, capable de veiller aux intérêts de ma belle-fille en même temps qu'aux miens.
Mais la maman de la jeune dame, monsieur, elle peut bien s'occuper de sa fille, il me semble.
Sa maman est follement indulgente, elle est à peu près aussi en état de prendre soin de sa fille que de siéger au Parlement. Vous vous rappelez la jolie Georgie, un peu plus âgée, un peu plus grasse et plus colorée, mais tout aussi jolie et tout aussi indolente.
L'entrevue se prolongea quelque temps encore. Lorsqu'elle se termina, Sheldon s'était complètement entendu avec sa vieille servante. Nancy devait rentrer à son service, et en plus de ses devoirs ordinaires, elle avait contracté l'engagement d'exercer une active surveillance sur tous les mouvements de Charlotte. En un mot, elle devait l'espionner. Mais Sheldon était un homme trop habile pour exposer sa demande en termes aussi précis, sachant très bien que, fût-elle à la dernière extrémité, Nancy eût refusé de remplir un pareil emploi si elle en eût clairement compris l'infamie. Le jour qui suivit cette entrevue avec Mrs. Woolper, l'agent de change revint de la City une heure ou deux plus tôt qu'à l'ordinaire, et il surprit Miss Halliday par son apparition dans le jardin où elle se promenait seule, plus jolie que jamais, avec son chapeau noir et sa jaquette d'hiver. Elle marchait vite.
« Je désirerais causer un moment avec vous, Charlotte, » dit Sheldon. « Le mieux est d'aller dans mon cabinet, où nous serons à peu près sûrs de ne pas être interrompus. » La jeune fille devint cramoisie, ne doutant pas que Sheldon allait lui parler de son mariage.
Valentin lui avait raconté l'entrevue très satisfaisante de la salle à manger, et depuis ce moment, elle avait cherché une occasion pour remercier son beau-père de sa générosité. Cette occasion ne s'était pas encore présentée, et elle ne savait comment s'y prendre pour lui exprimer sa reconnaissance. Peut-être n'y a-t-il pas de tâche plus difficile que d'exprimer de la gratitude à une personne pour laquelle on n'a jusqu'alors éprouvé qu'un sentiment voisin de l'aversion. En tout temps, depuis le second mariage de sa mère, Charlotte avait lutté contre une répugnance instinctive pour la société de Sheldon. Elle n'avait pu se défendre d'une défiance innée de l'affection qu'il lui témoignait. Mais à présent qu'il lui avait prouvé sa sincérité et ses bonnes dispositions dans une circonstance solennelle, elle se reprochait tout cela comme des torts graves. « Je lis souvent le sermon sur la montagne, » se disait-elle, « et malgré cela, dans mes pensées à l'égard de Mr. Sheldon, je ne puis jamais me souvenir de ces mots « Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. » Sa bonté me touche jusqu'au fond du cœur. » Et mon injustice me l'a fait sentir d'autant plus vivement. elle suivit son beau-père dans son cabinet. Il n'y avait pas de feu, et par cette journée de décembre, la chambre était plus froide qu'un caveau. Charlotte frissonnait, elle serra plus étroitement sa jaquette autour de sa taille en s'asseyant sur l'une des chaises en maroquin rouge. « Cette chambre est bien froide, dit-elle, très très froide. » Après ces mots, il y eut une courte pause, pendant laquelle Sheldon prit dans la poche de son pardessus quelques papiers qu'il rangea dans son pupitre d'un air distrait. Charlotte trouva assez de courage pour prendre la parole la première. « J'ai à vous remercier, monsieur, papa, dit-elle, prononçant le « papa » avec un léger effort. « J'ai voulu vous remercier pendant ces deux derniers jours, seulement il y a des choses qui sont si difficiles à dire que… « Je ne mérite ni ne désire vos remerciements, ma chère, je n'ai fait que mon devoir. « Mais si vraiment vous les méritez, et je vous les adresse en toute sincérité, papa, vous avez été très, très bon pour moi au sujet de Valentin. Je pensais que vous vous opposeriez à mon mariage comme à une imprudence, voyez-vous, et… Je m'oppose à votre mariage comme à une imprudence pour le présent, et je n'y consens pour l'avenir qu'à la condition que Mr. Hawkehurst se sera d'abord fait un nom dans la littérature. Il paraît avoir du talent. « Oh oui, en vérité, cher papa !» s'écria la jeune fille, charmée de cet éloge de son amoureux. « Il a plus que du talent. Je suis sûr que vous diriez comme moi si vous aviez le temps de lire son article sur Madame de Sévigné. » « Je ne doute pas qu'il ne soit très remarquable, ma chère, mais je me soucie fort peu de Madame de Sévigné. Ou bien son essai sur la vie de Bossuet. Ma chère enfant, je ne sais même pas ce que c'était que Bossuet. Tout ce que je veux de Mr. Hawkehurst, c'est qu'il s'assure un renom suffisant avant qu'il vous enlève de cette maison. Vous avez été habitué à un certain genre de vie, et je ne puis pas admettre que vous soyez exposé à la pauvreté. » « Mais, cher papa, la pauvreté ne m'effraie pas du tout. »« Je le comprends, ma chère, vous n'avez jamais été pauvre, » répliqua froidement Sheldon. « Mais la pauvreté et moi avons jadis voyagé de compagnie. Je la connais et je ne désire pas la rencontrer de nouveau. » Sheldon devint silencieux. Ces derniers mots avaient été adressés à lui-même plutôt qu'à Charlotte. Et les pensées qui les accompagnaient semblaient ne lui être rien moins qu'agréables. Charlotte était assise en face de son beau-père, attendant qu'il reprît la parole. Elle regardait les volumes richement reliés qui apparaissaient derrière les portes vitrées de la bibliothèque et se demandait si jamais personne en avait lu un seul. « Je voudrais bien relire les romans de ce cher Sir Walter Scott, » pensait-elle. « Il n'y a jamais eu de roman plus charmant que La fiancée de la mère mort. Et je ne crois pas qu'on puisse se lasser de le lire. » Mais demander la clé de cette bibliothèque à Mr. Sheldon n'est pas possible. Je crois que ces livres sont des éditions spéciales qui ne sont pas destinées à être lues. Je serais curieuse de savoir si ce sont de vrais livres ou simplement des décors mis par le tapissier. Puis son imagination se mit à vagabonder vers ce charmant modèle de cottage où elle et Valentin iraient demeurer lorsqu'ils seraient mariés. Elle ne cessait de le remeubler. Elle le construisait et le reconstruisait, suivant le caprice du moment. Tantôt il devait avoir des fenêtres arquées, tantôt des croisées dans le style du temps d'Élisabeth. Ce devait être le plus simple, le plus original des cottages, entourés de rosiers, avec des fenêtres à coulisses et une épaisse toiture en chaume. En cet instant, elle s'amusait à composer une petite bibliothèque pour Valentin, en attendant que Sheldon reprît l'entretien. Il y aurait d'abord tous ses livres favoris à elle, cela allait de soi, et on les ferait relier de la plus élégante façon. Elle voyait déjà les petits volumes soigneusement rangés sur les tablettes en bois de chêne sculptées que Valentin achèterait d'occasion. Elle se voyait elle-même au bras de son mari, courant les marchands de bric-à-brac, à la recherche d'une bonne occasion. Ah, que de bonheur, que de délices dans cette pensée! Et combien peu, hélas, de tous ces rêves brillants se trouvent réalisés sur la terre. Et même sont-ils accomplis dans le ciel, ces rêves de bonheur parfait. Sheldon leva enfin les yeux. Miss Halliday remarqua que son visage semblait contracté à la froide clarté du soleil d'hiver. Mais elle savait combien sa vie d'affaires était dure, et elle ne fut pas surprise de voir qu'il avait mauvaise mine. J'ai quelques mots d'affaires à vous dire, Charlotte, et j'ai besoin que vous m'écoutiez avec attention. Je le ferai avec plaisir, papa, mais je n'entends absolument rien aux affaires. Je ferai mon possible pour simplifier les questions. Je présume que vous savez combien d'argent a laissé votre père, y compris les sommes pour lesquelles il avait fait assurer sa vie. Oui, j'ai entendu dire à maman que c'était 18 000 livres. Je hais l'idée de ses assurances. Il me semble que ce soit le prix de la vie d'un homme, n'est-ce pas vrai? C'est certainement une manière d'envisager la question peu digne d'un homme d'affaires. Mais je ne puis supporter la pensée que nous avons reçu de l'argent par le fait de la mort de papa. Ces réflexions étaient trop sentimentales et trop banales pour que Sheldon y fît attention. Il continua avec cette voix froide et dure, particulière aux commis, aux acheteurs et aux vendeurs de rentes ou d'actions à qui il avait affaire. Votre père possédait 18 000 livres. Cette somme a été laissée à votre mère sans aucune condition. Lorsque votre mère s'est mariée avec moi sans convention particulière, cet argent est devenu ma propriété au point de vue légal, pour en faire bon ou mauvais usage. Vous savez que j'en ai tiré bon parti et que votre mère n'a jamais eu à se repentir d'avoir eu confiance dans mon honneur et ma loyauté. Le moment est venu où cet honneur va être plus sérieusement éprouvé. Vous n'êtes pas en droit d'attendre même à 1 shilling de la fortune de votre père. « Je sais cela, monsieur, » s'écria vivement Charlotte. « Valentin le sait également, et croyez-moi, je ne m'attends pas. J'ai à régler des choses avec ma propre conscience, aussi bien qu'avec vos droits. » « Vos droits naturels, ma chère Charlotte, » dit solennellement Sheldon. « Votre père vous a laissé sans le sou, mais mon honneur me commande de réparer son imprudence. J'ai en conséquence préparé un acte de donation par lequel je vous transfère la propriété de 5 000 livres placées en ce moment en actions de la banque Unitas. « Vous allez me donner 5 000 livres ?» s'écria Charlotte stupéfaite. « Sans aucune réserve. » Vous voulez dire sans doute que vous me donnerez cette fortune quand je me marierai, papa, dit Charlotte en l'interrogeant. Je vous la donnerai immédiatement, répliqua Sheldon. Je désire que vous soyez complètement indépendante de moi ou de mon bon ou mauvais vouloir. Vous comprendrez alors que, si j'insiste sur la nécessité d'un délai, je le fais dans votre intérêt et non dans le mien. Comprenez que, si je fais obstacle à votre mariage immédiat, « ce n'est pas avec l'intention de différer le moment de vous compter votre dot. »« Oh, Mr. Sheldon, oh, papa, vous êtes plus que généreux, vous êtes noble. »« Ce n'est pas que je tienne à l'argent. Oh, croyez-moi, il n'y a au monde personne qui y tienne moins que moi, mais votre générosité me touche jusqu'au fond du cœur. »« Oh, je vous en prie, laissez-moi vous embrasser comme si vous étiez mon propre père revenu à la vie pour me protéger et me guider. » « Je vous croyais froid, intéressé. J'ai pu vous méconnaître à ce point. » Elle courut à lui, jeta son bras autour de son cou avant qu'il pût s'en défendre et approcha sa jolie bouche rose de ses joues sèches. Son cœur débordait d'une pure émotion, sa figure était épanouie, elle était heureuse de reconnaître que le mari de sa mère était meilleur qu'elle ne l'avait jugé. Mais, à sa grande surprise, il l'éloigna de lui rudement, presque brutalement, et, en le regardant, elle le vit plus sombre qu'il ne lui était jamais apparu. Colère, terreur, peine, remords, elle ne savait ce que ce pouvait être, mais l'expression en était si horrible qu'elle recula épouvantée et retomba lourdement sur sa chaise, toute tremblante. « Vous m'avez effrayé, Mr. Sheldon. » « Pas plus que vous ne m'avez effrayé moi-même, » répondit l'agent de change en s'approchant de la croisée près de laquelle il se tint, cachant sa figure à Charlotte. « Je ne croyais pas qu'il y eût en moi autant de sentiments. »« Est-ce que je viens de vous fâcher ?» demanda avec hésitation la jeune fille, stupéfaite du brusque changement de façon de son beau-père. « Non, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas habitué à ces fortes émotions, » répliqua Sheldon d'un ton saccadé. « Je ne puis pas les supporter. » « Je vous en prie, évitons toute explication sentimentale. Je tiens à faire mon devoir simplement en homme d'affaires. Je ne demande pas de reconnaissance. Les 5 000 livres sont à vous, et je suis satisfait de voir que vous trouviez cette somme suffisante. » Miss Halliday ne fut pas du tout émerveillée de l'idée d'avoir subitement en sa possession 5 000 livres. Elle fut beaucoup plus impressionnée par le nouvel aspect que donnait au caractère de Sheldon sa conduite de ce jour. Ses pensées se reportèrent vers son amant. Elle se mit à penser à l'influence que cette fortune pourrait avoir sur ses projets d'avenir. Il pourrait aborder le barreau, travailler, étudier dans les beaux appartements du temple avec leurs grandes croisées donnant sur la Tamise, et lire le soir des ouvrages de loi pendant un petit nombre de délicieuses années après lesquelles il ne pourrait manquer de devenir lord chancelier d'Angleterre. Qu'il pût dévouer à ses concitoyens dans une simple cour de justice une intelligence et un génie comme les siens et ne pas s'asseoir sur le siège de chancelier était une éventualité que ne pouvait pas admettre Miss Halliday. Ah, que ne pourrait-on acheter pour lui avec 5 000 livres ? Le cottage se transformait en château, la petite armoire aux livres était remplacée par une bibliothèque que celle de Lord Brougham pouvait seule égaler. Un noble coursier attendait à la porte vitrée du vestibule pour transporter Mrs. Hawkehurst à Temple Bar. Tout ceci avant que l'aiguille des minutes de la petite pendule de Sheldon eût passé d'un chiffre à un autre, si grande était l'aptitude de la pauvre enfant à construire des châteaux en Espagne. « Dois-je parler à maman de notre conversation ?» demanda-t-elle après un moment. « En vérité, non, » répliqua Sheldon d'un ton pensif. « Ces arrangements de famille ne peuvent être tenus trop secrets. » Votre maman est un peu bavarde, et comme nous n'avons pas besoin que personne connaisse le montant exact de votre fortune, autant laisser les choses comme elles sont. De plus, vous ne désirez certainement pas que Mr. Hawkehurst en soit instruit.
Pourquoi non, papa ?
Pour plusieurs raisons. La première et la principale est qu'il doit être agréable pour vous d'être sûr qu'il est complètement désintéressé. Je lui ai dit que je vous ferai don de quelque chose. Mais il a pu comprendre que ce quelque chose voulait dire une 100 000 livres pour meubler votre maison. En second lieu, il ne faut pas oublier qu'il a été élevé à mauvaise école, et que le meilleur moyen pour lui d'apprendre à connaître ses propres forces est de lui laisser la pensée que son travail est la seule ressource sur laquelle il puisse compter. Je lui ai assigné une tâche. Lorsqu'il l'aura accomplie, il vous aura, vous et vos 5 000 livres. Jusque-là, je vous engage fortement à garder le secret.
Oui, répondit Charlotte, pensive, je crois que vous avez raison. Il m'eût été bien agréable de lui révéler votre bonté, mais je veux être tout à fait sûr qu'il m'aime pour moi-même, sans aucune réserve, oui, sans la plus petite réserve. Cela est très sage.
Ce fut ainsi que se termina l'entrevue. Le lendemain, de bonne heure, Charlotte accompagna son beau-père dans la City, et elle assista à une petite jonglerie commerciale de signatures et de contre-signatures qui dépassa tout à fait sa compréhension. Après ces formalités accomplies, on lui dit qu'elle était propriétaire de 5 000 livres en actions de la banque Unitas, et que le dividende auquel ses actions auraient droit de temps à autre lui serait remis pour qu'elle en disposât à sa guise. « Le revenu que produira votre capital sera plus que vous ne pourrez en dépenser tant que vous demeurerez chez moi. Je vous engagerai donc fortement à placer ces dividendes à mesure que vous les toucherez, de manière à accroître le capital. Vous êtes si bon et si prévoyant que je serai toujours heureuse de suivre vos avis. » On avait dit à Mrs. Sheldon que Charlotte allait dans la City pour faire choix d'une nouvelle montre, pour remplacer le petit joujou de Genève qui avait fait ses délices pendant son séjour à la pension. Et comme Charlotte rapporta à la maison un chronomètre des plus coquets et des plus complets de fabrication anglaise, la simple Georgie accepta tout bonnement l'explication. « Charlotte, vous devez reconnaître que votre beau-père est la bonté même dans ces circonstances, » dit Georgie, après avoir examiné la nouvelle montre avec admiration. « Quand je pense avec quelle indulgence il a agi dans cette affaire avec Mr. Hawkehurst, et combien il s'est montré désintéressé à propos de votre mariage, je suis vraiment disposé à le considérer comme le meilleur des hommes. » Georgie dit cela d'un air de triomphe. Elle ne pouvait oublier qu'on avait dit du mal de Philippe et prophétisé d'inexprimables malheurs pour elle-même et pour sa fille. Malheur qui la punirait de l'imprudence qu'elle avait commise en se mariant une seconde fois. « Il a été réellement très bon, maman, » répondit gravement Charlotte, « et croyez que je lui suis sincèrement reconnaissante. Il n'aime pas les phrases sentimentales, mais il sait, j'espère,
que j'apprécie à sa valeur toute sa générosité envers moi.